Ce n'est un secret pour personne, la gourmandise est sacrée pour moi. Alors quand Koro m'a proposé de devenir partenaire de ce podcast, j'étais plus que ravie. Si vous ne connaissez pas encore Koro, ce sont les pionniers de l'alimentation saine et durable, et vous pouvez trouver sur leur site aussi bien des super aliments, des snacks ou encore les meilleures purées d'oléagineux que j'ai la chance de goûter, mention spéciale pour la purée de cacahuètes crunchy. Et ce qui est particulièrement cool dans la démarche de Koro, c'est qu'au-delà de proposer une très large gamme de produits naturels, dont la majorité sont vegan et bio, leurs engagements se traduisent aussi dans la façon dont ils ont imaginé la marque. Ils proposent d'acheter en gros, dans des grands emballages pratiques et minimalistes, ce qui permet de vous proposer les prix les plus justes possibles. Autant vous dire que j'ai fait la razzia au bureau, on est venu remplir le bar à céréales avec les crispies au chocolat et le granola crunchy. Et ce qui est génial, c'est que quel que soit votre régime alimentaire, vous pourrez trouver votre bonheur. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, on vous offre avec Koro moins 5% de remise sur votre prochaine commande Koro avec le code INPOWER, INPOWER, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur INPOWER, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Clément, le cofondateur de la marque Opal, une marque de vêtements engagés qui réinvente la mode de demain. Opal, c'est le symbole d'un nouveau modèle de marque qui émerge. Celui de marques qui vont placer le respect et la préservation de l'environnement au cœur de leur ADN et de leur stratégie, et non plus comme une annexe ou comme un bonus, comme c'est souvent le cas dans l'industrie de la mode aujourd'hui. Clément nous partage son parcours, des bancs de l'école, en passant par son voyage en Inde et sa rencontre avec son cofondateur, Mathieu. On parle d'orientation et de comment répondre à la paralysante question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et qu'en fait, souvent, pour commencer, il suffit de procéder par élimination. Et on discute aussi de l'importance de se référer à ses valeurs lorsque l'on prend une décision, que ce soit dans sa vie pro ou sa vie perso. Clément nous partage aussi toutes les étapes de développement de sa boîte, de l'idée au financement, à la réalisation de leur première collection et au développement actuel d'Opal, et il nous rappelle également deux choses essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et la deuxième, c'est que personne n'a jamais confiance à 100%. La différence, c'est que certaines personnes ne laissent pas cette constatation empêcher la réalisation de leurs rêves. Si vous écoutez INPOWER assez souvent, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et en écrivant quelques lignes dans la section Avis que vous pouvez me soutenir le plus. Je remercie d'ailleurs cette semaine Valentine qui a laissé le commentaire suivant. Réel bol d'air frais à chaque nouvel épisode. C'est toujours un plaisir, un appel à réfléchir sur soi, son rapport aux autres, sa vie et sa carrière. Ce podcast est tellement agréable à écouter, c'est fluide, sincère et sans prise de tête, comme une discussion entre amis. Un concentré de petits conseils de vie pour prendre le pouvoir de sa vie, juste un mot, merci. Eh bien, merci à toi Valentine d'avoir pris le temps de m'écrire ces quelques lignes, et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire également, je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que cet épisode vous plaira et je suis ravie de vous inviter à écouter ma conversation avec Clément. Franchement, bien sûr, on va commencer en parlant de ton parcours, tu vois, okay. Et un peu de, Opal. On dit Opal ou Opal?
Opal.
Ok, c'est comme ça que je l'aurais dit, mais...
On a choisi un nom hyper simple, mais ouais. Hyper compliqué à écrire. Enfin, tu vois, je veux dire...
Quand tu le dis, on pourrait l'écrire de différentes manières.
Mais voilà, c'est ça. Du coup, genre, pour le retrouver sur Internet et tout, au début, c'est un peu galère.
Ah ouais, ouais. Et vous n'avez pas arrêté, du coup, parce que, bon, après, les gens se disent...
On s'en sort après, mais c'est que tu peux écrire... Déjà, avec deux, il y a beaucoup de gens qui font la faute, t'es avec deux O, etc.
Ouais.
C'est pas grave, c'est marrant. Ça me fait rire.
Ah, il y a qu'un seul O.
Un O et deux A.
Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, dans ma tête, il y avait deux O et un A. Alors, ouais. Pourquoi deux A?
Alors, en fait, Opal, ça veut rien dire. Il n'y a aucune vraiment signification derrière. On cherchait un mot. On a beaucoup réfléchi après sur le nom, sur l'écriture. On voulait des lettres un peu rondes, qui se prononcent facilement, qui s'écrivent facilement, et qu'un peu partout dans le monde aussi, il n'y ait pas trop de doutes sur la sonorité. Mais en fait, il se trouve que. Opal.com avec un seul A c'était pris.
Ah ouais.
Du coup on a doublé le A. Et en fait plus on a réfléchi, plus on trouvait ça cool de doubler une lettre, même si fondamentalement ça sert strictement à rien.
Ouais, ok. Bah, j'aime bien le côté hyper DIY. Le nom de domaine était pris.
Moi c'était efficace. Et surtout au tout début, tu vois, Opal, ça, du coup ça enregistre là en fait.
Ouais, ça enregistre.
Opal en fait, c'est parti d'une volonté, tu vois, de faire les choses bien et de, on s'est dit comment on peut passer notre temps à recycler des matières, faire des produits beaux qui vont faire passer un message, comment est-ce qu'on crée une équipe et comment, après avec l'argent qui reste, on va pouvoir soutenir des associations. Et en fait, les fringues, pour nous, c'est juste un moyen. Tu vois, on ne vient pas du milieu de la mode, même si après, du coup, j'ai suivi une petite formation d'ingénieur textile, j'ai travaillé en Inde dans des ateliers de confection. En fait, les fringues, c'est juste un moyen. On aurait pu créer une marque de skate, de surf, une marque de mobilier, peu importe le moyen. Ce qui était important pour nous, c'est de faire les choses bien. Et c'est pour ça qu'on voulait un nom qui veuille strictement rien dire. C'était Opal, c'est des valeurs. Et en gros, si on se plantait sur les fringues, on aurait enchaîné avec un autre projet, avec les mêmes valeurs. Et on aurait vu ce qui se passait. Et c'est pour ça que par la suite, peut-être qu'on se dit, on fera de la diversification, je sais pas, on verra ce qui se passe.
Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas un parti qu'on voit toujours dans l'entrepreneuriat de commencer par le besoin. Tu vois, vous êtes parti d'un besoin et d'une volonté en plus noble qui est de protéger l'environnement, alors que parfois dans l'entrepreneuriat, on part juste d'une idée cool ou d'un truc. Voilà, on aimerait bien être le porteur de tel projet parce qu'on trouve ça cool ou parce qu'il y a moyen de gagner pas mal d'argent. Et tu vois, les gens cherchent la bonne idée et en fait, vous êtes juste parti de... Bon, il y a quand même une petite urgence, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire mieux. Tant pis la forme que ça prendra, mais au moins on a le fond, quoi.
Grave. Et je pense que c'est essentiel. Et plus le temps passe, plus on se rend compte, chez Opal, que le moyen est ultra important, la forme est ultra importante. Tu vois, genre un t-shirt... qu'il soit recyclé, fabriqué en France, bio, matière naturelle, éthique, avec toutes les valeurs possibles. Si jamais il n'est pas esthétique et s'il ne va pas répondre à un besoin pur et dur, ça ne servira à rien. Mais derrière, ce qu'on pensait important, c'était de se dire, il faut qu'on réfléchisse à nos valeurs et quelles valeurs est-ce qu'on veut véhiculer. Et après, naturellement, la pelote de laine, elle se détricote un petit peu toute seule. Parce que à chaque fois que tu vas devoir prendre une décision, si tu te bases sur des valeurs qui te sont chères, en fait, les décisions, elles coulent un petit peu de source. Et à chaque fois qu'on va prendre une décision, il y a des décisions qui sont imparfaites, évidemment, parce qu'on ne pourra pas toujours être parfait, heureusement. En fait, on est capable de justifier nos décisions. Et ce qui fait qu'on est au clair avec nous-mêmes et avec nos clients, puisque en fait on a une démarche ultra honnête et ultra transparente.
Non, c'est vraiment une très bonne façon de réfléchir et je suis d'accord parce qu'en fait c'est un squelette quoi et surtout ça permet de toujours savoir où on va parce que parfois on se lance dans l'entrepreneuriat et c'est vite facile de perdre la pédale parce que c'est un monde gigantesque et il n'y a pas une bonne façon de faire. Mais c'est vrai que quand je suis aussi allée brièvement à Berkeley étudier l'année dernière et on nous avait demandé, parce que c'est un programme entrepreneurial, de écrire un peu, tu vois, les valeurs qui seraient propres à notre culture, tu vois, notre culture d'entreprise. Et en fait, je trouve pas ça con du tout parce que en fait, ça te permet limite d'avoir un manifeste auquel revenir quand tu doutes, quand t'as l'impression qu'il y a des choix qui sont trop difficiles. Moi, perso, je suis hyper nulle pour faire des choix, genre le poids de la responsabilité est terrible. Moi, j'ai une sœur jumelle, je fais Camille. Tu choisis. Et en fait, ce genre d'outil, entre guillemets, permet en fait, de dire, non, j'ai un référentiel. Voilà, quand moi-même, je suis perdu, je peux me rappeler ce que j'ai écrit et ce qui me correspond, quoi.
Ouais.
Vous avez fait ça, vous, ou pas, un petit...
On a fait ça. C'est pas... Enfin, souvent, on a des grandes idées de grandes valeurs. Mais ce qui est très dur, c'est de mettre des mots dessus.
C'est vrai.
Et il y a un travail qui est, je pense, fondamental, c'est quand tu te lances ou... un peu après le lancement, parce qu'au début, tu étais quand même dans l'effervescence de faire un produit, faire un service, l'expliquer à ta communauté, etc. C'est quand même, comme tu dis, un bon squelette, des bons piliers, mais ça prend du temps de trouver les bons mots. Et en fait, du coup, tu vois, avec mon associé Mathieu, et puis après avec l'équipe Opal, on a dû se mettre d'accord sur le sens des mots qu'on utilise. Pour se dire, en fait, on a le même langage, et quand on dit, je sais pas, préserver et mériter le monde que nous voulons, qu'est-ce qu'on met derrière préserver, qu'est-ce qu'on met derrière mériter? Et en fait, si on le dit à une personne lambda dans la rue, peut-être qu'elle entendra la même chose que nous, mais peut-être qu'il y aura des différences de perception, et c'est là où nous, en fait, on doit être fort pour expliquer quelles sont réellement ces valeurs-là.
Ouais.
Comme si je te parle d'autonomie, toi, tu vas entendre, ça va faire écho chez toi à certaines choses, alors que peut-être chez nous, autonomie, ça veut dire quelque chose encore un petit peu différent.
Ouais.
Et on va essayer, du coup, quand on utilise des grands mots comme des référentiels de valeurs, il faut juste être sûr derrière que ça veut bien dire la même chose chez tout le monde, puisque le langage...
C'est lié à l'interprétation.
C'est lié à l'interprétation, et il faut juste mettre d'accord sur tout ça. Et ça aide, ça fait gagner du temps, quand t'as des doutes. Parce que, en tant que entrepreneur, et même je pense que toute personne, on prend toujours des décisions sur des informations incomplètes, et c'est dur de faire des choix. Donc quand on a une sorte de cadre, ou une petite canne sur laquelle se reposer, c'est chouette.
C'est clair.
Parce que ça va...
Ça allège un peu
allège.
Le poids du truc, quoi.
Crabbe.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, particulièrement, je pense, quand t'as parlé de ton associé, et c'est le cas, je pense, particulièrement pour les co-founders, mais aussi pour l'équipe en général, c'est vrai qu'il y a le biais de l'interprétation. Donc, des associés qui, sur les mots, peuvent être totalement d'accord, au final, ne peuvent pas du tout avoir la même vision que ce soit court terme ou long terme.
Ouais.
Et souvent, on entend des histoires de projets qui n'ont pas abouti, justement, parce qu'en en parlant, ils étaient hyper emballés. Mais
ouais.
En fait, quand tu rentres dans le dur, si tu te rends compte qu'il y a un gros point de dissonance,
ouais.
Ça peut faire écrouler la pyramide, quoi, très rapidement.
Ouais, carrément.
Tu l'as rencontré où, toi, Mathieu?
On s'est rencontrés en école de commerce, du coup. Parce
ouais.
Avec Mathieu, on est tous les deux passés par l'école de commerce de Toulouse, qui s'appelle Toulouse Business School.
Ah, ma sœur jumelle a étudié à Toulouse, mais
ah ouais
à TSE.
Ok, classe. En quelle année c'était? C'était en 2013 où on est rentré et on était dans la même promo, quoi.
Mm.
Donc on se connaissait absolument pas du tout. Mathieu vient de Saint-Malo, moi je viens de la Drôme, de Valence, et on s'est rencontrés à Toulouse. Et en fait très rapidement on a eu certaines affinités par rapport à la pratique de sport un petit peu outdoor. Mathieu sur le côté océan, moi plutôt sur la partie montagne, sur l'organisation d'événements. Et bon, on avait des affinités, ça se passait bien. Du coup on a commencé à passer du temps ensemble. Il se trouve qu'à l'été 2015, Mathieu était en stage à Tribord, à Hendaye, et moi je travaillais dans une école de surf à Saint-Jean-de-Luz.
Mm.
Et en fait, on passait pas mal de temps ensemble. Et à ce moment-là, on avait donc Mathieu, il avait déjà eu une expérience dans une entreprise. Moi, j'avais déjà fait une expérience aussi dans une entreprise, et j'avais été ultra satisfait, mais aussi ultra surpris parce que je trouvais ça chouette. Mais il y avait des enjeux un peu d'impact environnemental, de liberté de décision qui me tracassait un petit peu. Du coup, j'ai commencé à lire des livres. Et en fait, en lisant des livres qui sont connus, hein, de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, etc., ça commençait à allumer des petites lumières et à nous poser des questions. Parce que du coup, j'achetais des livres, je les lisais, je les donnais à Mathieu qui les lisait, on échangeait un petit peu dessus. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, ce serait cool de créer une boîte, un projet. En fait, c'était même pas une boîte, un projet, on savait pas trop. Mais juste dire, il faut que ce soit en adéquation du coup avec nos engagements, notre engagement environnemental et en quelque sorte cette liberté d'entreprendre pour pouvoir prendre toutes les décisions qu'on veut, pas avoir de contraintes, avoir de comptes à rendre à personne pour pouvoir avancer vite. Et du coup, en donnant un petit peu ce cadre, on est tombé sur des sortes de valeurs qui à l'époque, il n'y avait aucun mot, aucun terme, et encore aujourd'hui, on a du mal à mettre des mots dessus, mais juste on sait ce que ça veut dire quand on parle de préserver l'environnement, de liberté, d'entreprendre, de responsabilité, d'autonomie. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a construit et qu'on continue de construire à deux, et c'est vraiment chouette.
Okay.
Enfin, à deux, parce qu'on n'est que deux associés chez Opal.
Ouais.
Mais maintenant, on construit tout avec toute l'équipe.
Mm.
Et on aime bien faire ce travail de co-construction parce que au moins, c'est horizontal et c'est vachement plus agréable.
C'est vrai. Mais du coup, vous avez eu cette réflexion quand vous étiez encore en cours.
Ouais.
Comment est-ce que ça a orienté après la suite de vos études? Et parce que je pense qu'on est pas mal, sûrement des auditeurs et auditrices de ce podcast, à avoir ce sentiment qu'on a envie de faire des projets, on a envie de mener une idée à bien.
Ouais.
Mais voilà, après, malheureusement, il y a énormément de biais qui peuvent faire qu'on ne va pas croire en soi, les autres vont nous décourager, on ne va pas savoir par où aller, tu vois. C'est
ouais.
Vrai que c'est super d'avoir une si grande ambition, mais ça peut aussi être très vite, ça peut donner le vertige. Donc est-ce que vous, ça vous a pas fait peur, et quels ont été en fait vos premiers pas après cette décision de on va monter une boîte ensemble qui a du sens?
Il y a eu pas mal de chemin parcouru entre l'idée et la réalisation, le premier test, la réaction, la création d'une entreprise, etc. Pour ma part, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, du coup, après le bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais passé plein de concours, j'avais passé justement Sciences Po, des concours d'architecte, des choses diverses et variées. Et j'ai atterri en école, en prépa, parce que je me disais que ça me donnait 2 ans de sursis en plus après le bac,
ouais,
pour réfléchir à ce que je voulais faire.
C'est vrai.
J'avais un bon penchant sur l'environnement, parce que du coup, j'ai grandi dans la Drôme. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent là-bas. Mon frangin, il est passionné de montagne. Ma mère emmenait faire des randos, mon père aussi. Bon, il y avait quand même mes grands-parents, ils habitent dans le Vercors, donc je passais pas mal de temps dehors.
Ouais.
Et malgré ça, dans les cours, j'aimais bien les maths et je m'étais dit, ok, je vais aller faire une école de commerce. Et en arrivant en école de commerce, je me suis dit, je vais faire un petit tour en finance pour voir ce qui se passe, parce que j'aimais bien les maths. Il se trouve, du coup, premier stage où je débarque, et c'était ultra intéressant. Les gens étaient formidables, j'ai appris plein de trucs, mais je me suis dit, c'est clairement pas le truc pour lequel je suis fait.
Ouais.
Donc je voulais m'orienter vers des milieux qui m'intéressaient un petit peu plus. Et là, les milieux qui m'intéressaient un petit peu plus, c'était la nature et le sport. Du coup, il y avait ce côté un petit peu ski et ce côté un petit peu surf. Et le dénominateur commun des sports outdoor, c'est le textile un petit peu technique. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter l'école de commerce. Donc je suis allé voir l'école, j'ai dit, j'ai envie d'arrêter l'école de commerce pour me réorienter et faire une formation d'ingénieur textile. En fait, là, ils n'étaient pas tout à fait d'accord de me laisser partir. C'est que là, oh, tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Je pense aussi que ça leur faisait du coup un élève en moins. Mmh. Pas bon pour les stats. Mais toujours est-il qu'ils ont été bons parce qu'on a réfléchi à des solutions en disant comment est-ce qu'on peut faire. Et du coup, dès mon retour de stage, en fait, on s'est dit, OK, on fera une rupture de contrat pendant ton année de césure et tu vas faire une formation où tu seras pris. Hein. Enfin, bon courage, quoi. On verra. Du coup, là, ça me laissait quelques mois. J'ai cherché une formation. J'ai trouvé une formation à l'UT d'Annecy sur les textiles techniques. Du coup, beaucoup plus orienté ski qu'océan. Mais ça me convenait bien. Et là, du coup, en rentrant de ce stage de finance de marché, j'avais rejoint un parcours un petit peu plus stratégie entrepreneuriat. Et je savais qu'en septembre 2016, du coup, j'irais faire un tour à Annecy, étudier le textile. Et en gros, pendant ces 6 mois là, de janvier à juin, du coup, dans un parcours un petit peu plus entrepreneuriat, on avait beaucoup de profs et d'intervenants qui étaient soit des chefs d'entreprise, soit des entrepreneurs, enfin plein de gens qui avaient créé des associations de plein de milieux différents. Et en fait, je pense que plus tu rencontres des gens qui ont créé l'entreprise, plus ça te file un petit peu le virus, plus c'est contagieux parce que tu te rends compte à quel point c'est chouette, même s'il y a des hauts, il y a des bas, et tu te dis, ah oui, c'est quand même super intéressant. Du coup, là, ça commençait à tourner, je commençais à lire des livres, et je pense qu'il y a un petit truc qui se passait dans ma tête. Après, il y a eu ce fameux été où je passais du temps avec Mathieu, avec qui, du coup, je partageais un petit peu toutes ces questions. Et ce qui est génial avec Mathieu, c'est que c'est un gars qui est super, on s'entend très très bien. Et quand je lui ai dit, mec, est-ce que t'es chaud de créer une boîte? Il a dit oui. Et à partir de là, on était là, ok, c'est parti. Et ça s'est très très bien passé. Et en gros, c'est pour ça, genre, c'est... Opal, je pense que c'est l'été 2015 où il y a eu le petit truc déclencheur, mais en amont, il y avait ce petit. Toute cette petite chose où, genre, je sais que je ne veux pas faire des maths, de la finance, c'est trop détaché du concret, c'est pas assez tangible. Ce petit parcours-là où j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, où ça te file un petit. C'est contagieux, quoi. Et après, du coup, en septembre 2016, je commençais à aller étudier les textiles techniques. Ensuite, je suis parti travailler un peu plus de 6 mois en Inde dans un atelier de confection. Donc. J'apprends des choses théoriques, des choses opérationnelles. En parallèle, Mathieu, lui, il travaillait depuis la France. Il s'occupait des démarches administratives pour créer Opal, toutes ces choses qui peuvent sembler futiles, mais sont ultra importantes et nécessaires. Et en gros, ce qui fait que pendant toute la première année, on a travaillé à distance, parce que j'étais en Inde, Mathieu était en France. Quand je suis rentré en France en septembre 2016, Mathieu était parti en Espagne. Et en gros, les choses se faisaient naturellement. Mais pour revenir du parcours étudiant, parce que je me suis un peu éloigné de la question, ce qu'on faisait, c'est que Mathieu était le premier à prendre un risque, puisqu'il n'a pas fait de deuxième stage de césure.
Ouais.
Il a décidé de consacrer son temps pour Opal. Alors que moi, ce que je faisais, c'est que quand j'étais en Inde, je travaillais beaucoup dans l'entreprise à laquelle je travaillais, mais je travaillais les matins, le midi et le soir pour Opal. Du coup, c'était du plus, du bonus.
Ouais.
Alors que Mathieu était en quelque sorte le premier à faire le grand pas et à prendre ce risque-là de pas avoir une deuxième expérience pendant sa césure.
Ouais.
Même si c'est une expérience, mais c'est quand même un risque.
Plus formatrice, mais ouais. Oui. Après, on voit ses potes qui sont peut-être déjà dans des grosses boîtes et qui ont une sortie de secours, quoi.
Et oui, voilà. Et qui ont malgré tout, même si t'as un petit salaire à 550 €, enfin, t'as quand même un petit salaire. Là, c'est quand même un risque de une expérience en moins sur le CV potentiellement, un petit salaire en moins. Et du coup, on a pris ce risque-là, Mathieu un petit peu plus. Et en fait, le calcul était de se dire. On va prendre ce risque-là, comme ça, à la fin de l'école, on sait s'il y a un truc à faire avec Opal ou pas. Si jamais il y a un truc à faire, on continue évidemment. Si jamais ça marche pas, eh ben, on rembraye sur un autre projet, parce que justement, l'idée, c'était de faire quelque chose de bien, quoi,
finalement. Ouais.
Et du coup, on a lancé une campagne de précommande en juin 2016. Donc moi, j'étais encore en Inde, Mathieu était encore en France. Et ça a marché, il y a eu un premier petit truc, petit élément déclencheur, ça a pris, on s'est dit, il y a quelque chose à faire.
Ouais.
Et du coup, pour nous, le vrai début de l'activité commerciale d'Opal, c'était en janvier 2017, où on était enfin tous les deux côte à côte sur la même table, et 100% à Opal, on était plus étudiants. Mais c'était notre stage de fin d'études, en gros.
Ouais, non mais c'est cool, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce que tu as dit. Un, c'est quand même le fait que... bon, déjà, je trouve que tu as dit un truc qui est important de souligner, qui est que parfois, on est perdu par l'immensité de la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et je suis d'accord qu'en plus, elle n'a pas de sens, parce que ça devrait plutôt être « qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?» Voilà, et comme ça, tu t'erreras et tu verras où ça t'emmène dans 10 ans. Mais aussi que parfois, c'est aussi plus simple de faire par élimination, un peu comme tu as fait. C'est « on teste, on voit, ça, je sais que c'est pas pour moi, ça, je sais que c'est pas pour moi, bah, qu'est-ce qui reste ?» Explorons un peu ça. Et voilà, toi, tu as trouvé ce programme entrepreneurial qui t'a parlé et qui t'a associé à tes valeurs. Et parfois, je trouve qu'il ne faut pas chercher trop loin. Il ne faut pas chercher quel est le métier qui me plairait, mais juste qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes valeurs. Et en fait, si tu combines déjà ces deux choses-là, t'as un peu le pari d'être heureux, tu vois, et c'est un peu le but.
Ouais.
Et après, le deuxième truc qui m'a interpellée, c'est que donc t'as quand même un peu, je trouve, très vite fait le saut de... Enfin, arrêter quand même ton école de commerce, alors que... Alors après, c'est peut-être juste parce que tu n'as pas partagé toute ta réflexion, mais t'avais juste l'impression que c'était cool, l'ingénierie textile, tu vois, alors que moi, je trouve que c'est quand même une formation qui semble hyper experte et qui t'enferme un peu dans le sens où si, en fait, t'aimais pas forcément la mode ou t'aimais pas forcément le textile, bah, tu pouvais plus trop, pour le coup, revenir en école de commerce ou...
J'avais prévu de pouvoir revenir pour le Master 2. Et en fait, j'y suis retourné en Master 2 juste pour 4 mois, pour finir le truc et avoir le diplôme. Je m'étais dit, petite porte de sortie au cas où.
C'est vrai.
Et quand je suis rentré d'Inde, en fait, j'ai fait 4 mois de septembre à décembre pour être diplômé.
Ouais, ok.
Après coup, je sais pas si ça m'a servi, mais toujours est-il que je voulais le faire.
Et c'est cool, t'es allé au bout, entre guillemets, de ce que t'as commencé. Parce que ouais, c'est quand même très précis, j'imagine, ce que t'as fait pendant cette année et demie, et surtout en Inde, enfin, t'es parti loin.
Comme tu dis, tu vois, genre, quand tu sais pas, déjà se concentrer sur ce que t'aimes faire, mine de rien, t'es bon dans ce que t'aimes faire, je pense. Mmh. Et plus tu vas passer du temps à faire ce que tu aimes, plus tu vas devenir bon, et c'est un cercle vertueux qui se met en place.
Ouais.
Donc ça, je suis 100% d'accord avec toi. Sur la prise de risque d'aller faire un petit tour à Annecy, là, à l'IUT, le calcul était simple, c'était en effet je savais ce que je voulais pas faire, et après j'avais des secteurs qui m'intéressaient, et quand tu sais pas quel métier tu veux faire, tu vas aller chatouiller du côté des secteurs, et si jamais tu dis je sais pas c'est le mobilier qui m'intéresse, tu sais pas si tu vas aller faire je sais pas dans un truc de bois, ou un truc de design, ou un truc d'architecture, mais déjà tu sais c'est peut-être un grand secteur qui va te permettre de voir un peu ce qui se passe.
Ouais.
Et tu vois, en arrivant à cette formation là, à Annecy en plus c'était une petite formation internationale, du coup il y avait des profils ultra différents, de tout âge, de toute formation, de plein de pays différents, et en fait c'est énorme parce que ça t'ouvre un peu le champ des possibles, et tu te dis, why not, ça se tente, et créer une marque de fringues, enfin je m'en rappelle, la première discussion avec Mathieu, du coup on avait commencé à avoir des idées, et à un moment on s'était un petit peu arrêté sur faire des t-shirts, recycler, impliquer les clients, donner de l'argent à des associations. Et la première fois que j'ai dit, je pense à ma mère, ou à mon père, ou à mon frère, ou à un ami, genre, on va créer une marque de vêtements. Genre, t'es juste ultra timide et t'es là, je sais pas vraiment si je suis full confiant, parce que t'en sais rien. Mais bon, tu commences et le risque, il est très faible. Parce que...
Surtout à cet âge-là.
Surtout à cet âge-là, t'es quand même dans un cadre étudiant. Ce que tu vas perdre, au pire, c'est un petit peu de temps, mais ce que tu vas gagner, c'est... de l'expérience, des réseaux, parce qu'au final tu vas rencontrer taquet de gens, donc faut y aller quoi. Franchement, je pense que quand t'es étudiant, on peut être hésitant, un petit peu timide, et je pense que c'est normal qu'on ait un petit peu peur et qu'on soit pas tous enclins à vouloir y aller, mais le cadre en fait il est dingue, parce que tu vas passer peut-être quelques soirées, quelques matinées, parfois un petit peu plus, le midi, une après-midi, enfin, je pense que toi t'es bien placé pour le savoir, mais en fait derrière tout ce que ça apporte, c'est pas béni quoi.
C'est très rewarding. Excusez-moi l'anglicisme,
c'est clair.
Mais c'est important, ouais, et c'est cool que tu le dises, que t'étais pas full confiant, parce que je pense qu'aussi beaucoup de gens qui s'empêchent de croire en leurs idées, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont pas le profil pour, ou que tous les entrepreneurs ont commencé en mode je sais que ça a marché, je sais ce que je fais, alors que disons-le, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas, on a juste une idée et on essaye à tout prix de donner vie à cette idée, mais il n'y a pas de mode d'emploi quoi, il y a vraiment zéro mode d'emploi. Et vous du coup, parce que tu nous as dit que du coup vous avez fait cette première campagne fin 2016, juin 2016, mais vu que vous étiez donc à distance, enfin une fois que Mathieu a fait les démarches administratives, juste quel était votre premier produit et comment vous lui avez donné vie, parce qu'en plus s'il était déjà recyclé à la base, c'est quand même pas évident, et surtout quand on a 23 piges quoi et qu'on connaît rien à l'industrie de la mode.
On s'est mis dans des bonnes situations. Mathieu il a sûrement, enfin on a plein d'anecdotes à raconter, mais on était Mathieu, du coup, il crée la boîte. On savait pas où créer la boîte parce que quand t'es étudiant, tu bouges tout le temps.
Ouais.
Du coup, le premier siège social de Opal, c'était chez la grand-mère de Mathieu. Parce qu'on était sûr que la grand-mère de Mathieu ne déménagerait pas. Donc, c'était le premier truc. On a créé ça rapidement pour se dire il faut qu'on ait des statuts, il faut qu'on ait un nom d'entreprise pour que on puisse paraître sérieux auprès des fabricants, pour qu'on puisse être facturé, parce que sinon c'était compliqué. Et comme moi je travaillais en ce moment là dans un atelier en Inde qui faisait plein de belles choses sur le côté social et autres, en fait j'avais la chance d'avoir un boss avec qui je m'entendais très très bien, et je lui avais expliqué ce qu'on voulait faire avec Opal, Et en fait, en interne, on pouvait témoigner de toutes les chutes de tissus qui partaient à la poubelle.
Ouais.
Du coup, en fait, j'essayais de... Dès qu'il y avait des fabricants qui venaient, ou même des clients, parce que du coup, on est à l'intermédiaire, enfin, quand on était fabricant de fringues, donc ouais. de la confection, donc de la couture, en gros. T'es l'intermédiaire entre des fabricants de tissus, des matières et des clients. Et du coup, en fait, on rencontrait pas mal de gens. Et je faisais un petit peu du coude à chaque fois qu'on avait des gens qui passaient pour leur dire « Est-ce que vous connaissez des entreprises qui font du recyclage ?»
Ouais.
Et en fait, de fil en aiguille, donc c'était en Inde, dans le sud de l'Inde, vers Bangalore, on a rencontré des collecteurs de matières, des recycleurs de matières et des gens qui faisaient de la confection. C'est vrai que au départ, donc, bah, comme tu dis, je sais pas, j'avais 22-23 ans, et du coup, j'ai réussi à avoir des contacts auprès de très gros fabricants qui faisaient, je sais pas, peut-être 10 000 pièces par jour. Tout ça, tous les deux dingues, parce que c'était des marques comme, j'en sais rien, Timberland qui m'avaient recommandé, et j'arrivais, ils me demandaient combien de volume on faisait. Je leur disais 200 t-shirts par jour, ce qui me semblait mais énorme.
Bah ouais.
En fait, même eux, ça les faisait doucement rire.
Ouais.
Du coup, ils m'ont renvoyé vers des gens un petit peu plus petits,
ouais.
qui m'ont renvoyé vers des gens un petit peu plus petits, jusqu'à ce qu'on trouve des ateliers en fait à taille humaine.
Ouais.
On ait le temps de s'assurer que tout soit bien fait au niveau social, environnemental. Et à partir de là, on s'est dit, ok, là, on a des partenaires avec qui travailler, on peut enclencher et faire une campagne de précommande
ouais.
qui nous permettait de tester le produit, le message. Et on avait commencé du coup sur un t-shirt recyclé, fabriqué en Inde. Pour le côté recyclé, donc pour l'impact environnemental, fabrication en Inde, c'était pour la transparence, le côté social, parce que du coup je travaillais sur place,
ouais.
même s'il a fallu le justifier, parce que c'est vrai que comme on vendait en France,
ben
l'Inde
ouais.
ça semblait loin.
Ouais.
Depuis, on a changé, donc là on a rapatrié toutes nos chaînes d'appro.
Ouais.
Mais on s'était dit, il faut tester ça, le message a été bien accueilli, et on s'est dit, bon bah chouette.
Il y a quelque chose à faire.
Il y a quelque chose à faire.
Et donc là, vous étiez toujours que tous les deux, parce que.
Ouais.
Bah en fait, même pour le design du t-shirt, est-ce que vous l'avez fait vous-même? Parce que vous n'êtes pas styliste. Bon, toi, t'es ingénieur textile, donc peut-être tu t'es formé à
je
ça.
Suis,
mais...
Je suis pas ingénieur, franchement, je pense que je suis pas ingénieur textile. Je comprends,
ouais.
on va dire. Je comprends, mais j'ai pas les. C'est une formation, une licence pro. Tu vois, alors ça permet de mettre le doigt sur des grands, grands sujets. Je comprends, je peux parler avec des fabricants, je peux parler avec des gens qui...
Mm.
Enfin, je comprends ce qui se passe dans les machines.
C'est déjà
pas
mal,
je suis pas ingénieur, ouais, ouais. C'est déjà pas mal. Et c'est vrai que ça nous a fait gagner du temps, parce que ça donne un petit peu de crédibilité.
Ouais.
On était parti sur un t-shirt, parce que c'est sur internet, c'est ce qu'ils ont le plus facilement, parce qu'il n'y a pas besoin de l'essayer. C'est pas comme je sais pas, un chemisier, un pantalon. Bon, c'est un produit assez facile, et surtout qui est dans une fourchette de prix assez accessible.
C'est vrai.
Beaucoup plus facile et efficace de dessiner un t-shirt et le vendre que déjà de faire la coupe d'une chemise, d'une veste et de la vendre. Donc au niveau du stylisme, comme je travaillais dans un atelier, on va dire que c'était facile de trouver une coupe de t-shirt,
ouais.
De la mettre un petit peu à notre goût et de la développer. Et ensuite, ben petit à petit, comme on n'était que deux, en effet, on n'avait pas ces compétences-là.
Mm.
On a recruté une styliste modéliste, du coup, qu'on a en interne maintenant,
ouais.
ce qui nous permet d'aller chercher des formes plus sophistiquées, plus complexes, plus élaborées. Et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, on a un apprentissage qui est continu et permanent, et qu'on passe du t-shirt au sweat, à la chemise, à la veste. Et on va
ouais.
jusqu'où on va, quoi.
Est-ce que tu as trouvé ça dur d'agrandir ton équipe, et qui était la première personne que vous avez recrutée quand vous avez compris que ça allait aller un peu plus loin
Du coup, c'était en 2017 avec Mathieu, on commençait tous les deux.
Mm.
On avait recruté une personne en stage. On avait gagné un petit peu d'argent avec des concours entrepreneuriaux
ouais.
Où on expliquait bonjour, on fait des vêtements recyclés,
ouais, ouais.
3 000 euros, 1 000 euros.
Ouais, ça je me permets de te demander parce que
ouais.
je pense que ça peut peut-être intéresser des gens. Vous avez fait quoi? Vous avez tapé concours entrepreneuriat sur Google? Parce que je me demande moi comment je penserais à.
Je crois que je
parce
me
rappelle que c'est vrai qu'il y a la question du financement quoi. Donc,
grave, ça on peut en... c'est un vaste sujet
ouais,
le financement,
ouais.
mais on peut en parler, tout est un peu lié. Ben on peut en parler vite fait. Le financement, en gros, c'est ultra important de savoir qui a dans l'entreprise. Là, aujourd'hui, chez Opal, du coup, il n'y a que Mathieu et moi. Ce qui fait que, du coup, on a de compte à rendre à personne.
Mmh. Ouais, vous n'avez pas pris d'investisseur.
Non, ce qui peut être pratique, parce que, du coup, on sait que... du coup, avec Mathieu, on ne veut prendre aucune décision sous contrainte économique. Ce qui nous permet d'avoir cette liberté de dire, non, je préfère payer cet atelier qui coûte certes plus cher, mais je sais pourquoi. Ce tissu qui coûte plus cher, mais je sais pourquoi, etc. Ça, c'est notre choix. Par contre, du coup, quand on n'a pas d'investisseur, il faut faire l'autofinancement. Du coup, l'autofinancement, il y a une partie qui vient de l'activité, donc de la vente de nos t-shirts. Mais la vente de t-shirts, c'est pas toujours facile.
Mmh.
Et du coup, il faut trouver des moyens. Donc, les moyens qu'on a trouvés, c'était faire de la précommande.
Ouais.
Parce que si on suit le modèle de vente classique, on produit un stock, on le vend, c'est long.
Ouais.
Et quand
on
est une
petite
boîte,
on va écouler, quoi.
Et voilà, on ne sait pas si on va écouler. La précommande, du coup, ça a l'avantage économique de faire que tu ne produis que ce qui est consommé. Et d'un point de vue environnemental, c'est chouette aussi.
Ouais.
Parce que, encore une fois, tu ne produis que ce qui est consommé. Tu n'as pas ces enjeux, ces problèmes de surstock où tu arrives à des opérations, on va brûler un stock, on va le liquider, on va le jeter.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est des choses que l'activité économique permet de financer. Et ensuite, quand tu es une jeune entreprise, pour avoir des petits coups de boost, il y a des concours qui vont te permettre de gagner, je ne sais pas, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Et ces concours-là, donc, c'est génial parce que c'est de la subvention, donc c'est vraiment cadeau.
Ouais.
Et ça permet de... Nous, ça nous avait permis de payer nos premiers shootings avec un photographe professionnel,
ouais,
avec des mannequins professionnels, recruter une personne en stage.
Ouais.
Et en fait, ça donne du temps, ça donne de l'air, ça donne une nouvelle image à la marque. Et quand on a pu se payer un photographe avec des mannequins ou des personnes qui savaient poser, en fait, le site, il a changé complètement. Le taux de conversion, il a changé complètement. Quand on a pu recruter une personne, donc là, la première personne, c'était Anaïs, en stage, on était ravis de l'accueillir, elle nous a filé un méga coup de main. Surtout que quand on n'est que deux potes, tu sais, tout va hyper vite parce que t'es connecté, t'es branché. À partir du moment où il y a une troisième personne qui rejoint l'équipe, il faut déjà commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on partage l'information, comment on s'assure que l'info elle est disponible, elle soit correcte. Donc il y a plein de petites choses qui apparaissent. Et on a trouvé ça hyper chouette parce que ça te force à rendre toutes tes pensées, tes réflexions, tes idées claires et que chacun puisse se les approprier. Quoi. Donc c'est un super travail de com interne. Et si je pense qu'il y a une bonne com interne, ça facilite grandement la com externe.
C'est sûr. Alors que moi, je verrais plus le côté... ça doit être chiant parce que du coup, ouais, t'es plus compris comme tu l'étais avec ton meilleur pote, quoi. C'est maintenant, c'est vrai, putain, il y a elle qui on doit faire comprendre, mais d'un autre côté, elle était nécessaire, j'imagine, si jamais vous l'avez recrutée, tu vois, donc c'est mal pour un bien, mais c'est vrai que c'est en soi du management et ça, c'est pas toujours instinctif.
Le métier, il change, tu vois, genre entre le début de Opal, ce que Mathieu et moi on faisait, entre maintenant ce qu'on fait, je pense que ça, mais rien à voir.
Ouais.
Mais c'est tellement ouf. Des fois, je comprends, genre, je parle avec des amis qui entreprennent tout seuls ou qui entreprennent en couple. Et je comprends parce que t'as une facilité, t'as une liberté, t'as une rapidité, une fluidité. Mais quand t'arrives à recruter les bonnes personnes, à avoir des personnes sur qui tu peux compter, avec qui tu peux travailler, en fait c'est énorme parce que t'as plus un cerveau, deux cerveaux, genre t'as 6 cerveaux, 10 cerveaux qui t'ont en même temps. Et là, mais en fait c'est ultra puissant. Donc certes, ça demande un petit temps pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information ou puisse échanger sur les mêmes choses. Comme je te disais, tu vois, le truc des valeurs, que tout le monde comprenne les mêmes choses derrière les valeurs avec le même langage. Mais en fait, avoir ce même langage et que celui qui s'occupe de la com, il comprenne les enjeux de la prod. Que la personne qui s'occupe de la prod comprenne les enjeux de la compta, et ainsi de suite. Et en fait, quand on arrive à construire ce genre d'équipe, moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette.
Ouais, c'est vrai.
À date, on ne sait pas du tout, tu vois, on est 6, on ne sait pas du tout si on a envie d'être 10, 100, 2, j'en sais rien. Mais on avance étape par étape et juste on se dit, waouh, là ça se passe super bien. Est-ce que si on fait entrer une personne, qu'est-ce qui se passe? Si une personne part, qu'est-ce qui se passe? Mais on essaie d'avancer progressivement en conservant cette fluidité, cette facilité d'échange.
Ouais.
Et c'est beau, je trouve, d'emporter des gens, ça t'apprend à bien communiquer, quoi, à être clair, et ça facilite tout le travail de com externe puisque tout le monde tout le monde comprend les mêmes choses.
Qu'est-ce que t'as trouvé, si tu pouvais nous raconter, vu que tu parlais d'anecdotes, peut-être une galère où vous êtes vraiment dit genre je sais pas ce qu'on fait ou je sais pas où ça va aller, parce que comme on voit surtout beaucoup les succès sur le papier, je trouve ça bien avec ce podcast de parler c'est même pas ce que j'appelle des échecs, c'est juste des moments difficiles qui permet de réaliser que quand il y a un moment difficile, c'est pas la fin du monde, et que ça arrive en fait, et qu'il faut pas se remettre en question forcément pour autant.
Alors, c'est une bonne question. Des moments difficiles, on en a toujours, et là je pense que quand on a eu des moments difficiles avec Mathieu, on était ravis d'être à deux. Déjà, je pense qu'il y a cette petite notion là qui est importante, c'est que Opal, c'est un projet qu'on mène maintenant à une équipe. Mais initialement, on était deux. Et le fait d'être deux, je pense que ça nous a grandement aidé dans les moments cool, comme dans les moments difficiles. Parce que c'est chouette d'avoir deux cerveaux qui gambergent quand il y a des problèmes. Les problèmes qu'on a eu, on en a eu pas mal. Des trucs, ça va de la production, genre une production qui n'est pas forcément conforme à nos attentes. une production qui arrive en retard alors qu'on a fait des promesses à nos clients.
Ouais.
On a eu des problèmes, légaux parfois sur des trucs bêtes, mais sur lesquels on n'avait pas fait attention parce que justement, quand on a la tête dans le guidon, on avance. Ah, les statuts, ils sont pas comme il faut, merde. Comment on règle ça? Du coup, on a pas mal de remises en question, mais justement, ce qui est important, c'est de se dire, ok, comment on transforme ces problèmes-là en opportunités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apprendre et comment on grandit de cet échec, puisque avec Mathieu, du coup, on a zéro expérience professionnelle, si ce n'est nos deux petits stages, ce qui fait que d'une part, on a une grande, je pense, naïveté et innocence face à notre démarche, mais on trouve ça très chouette parce que du coup, quand un problème survient ou quand une opportunité survient, on la regarde un petit peu en mode waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que du coup, on est très souple sur la manière de traiter ces problèmes-là. Pour contrebalancer un petit peu cette non-expérience, mais qui je pense du coup est très chouette, on s'est très vite entouré de personnes. On a demandé à des gens est-ce qu'ils étaient prêts à nous aider sur des thématiques de production, de management, de finance, de gestion, de plein de trucs. Et on a dit à ces personnes-là, donc c'est des personnes qu'on a rencontrées lors d'événements, tu vois, par exemple, il y a Thomas Uriès de 1083, il y a Vianney de Backmarket qui nous aidait sur des questions de com. On leur disait, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des petits points où on vous explique ce qu'on fait avec Opal et vous nous dites vos retours d'entrepreneurs et de chef d'entreprise, de peu importe la position de la personne. Et nous, en retour, évidemment, on vous dit quelle décision on prend derrière, est-ce qui marche, est-ce qui marche pas. Du coup, on partage avec eux, on se plante et tout.
Ah, c'est super ça, parce que c'est une bonne idée, parce que, bah, comme tu dis, vous n'aviez pas d'expérience, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent n'en ont pas.
Ouais.
Et ça, pour le coup, on pense qu'on va déranger ou qu'ils vont nous rigoler au nez, tu vois.
Ouais.
Alors qu'en fait, t'as raison, eux, s'ils sont entrepreneurs dans l'âme, au final, ça les intéresse, limite, que vous soyez un peu leur terrain de jeu, où ils voient, ils sont foncés dans le mur, on fera pas ça.
Le cobaye.
Alors qu'au final, vous, bah, c'est hyper précieux, quoi, comme conseil. Et donc, vous avez vraiment fait ça en mode informel, vous avez, envoyé un message sur LinkedIn ou par mail, ce qu'on fait.
On a essayé, c'est par des rencontres, tu vois, genre un événement, ah salut, hop, on reprend un petit peu contact. Et en fait, on avait fait ce qu'on appelait le conseil des sages.
Ouais.
Et on avait mis 7 personnes dedans.
Ouais.
Et on avait dit, bah voilà, cette personne est déjà d'accord. Après, on sait que du coup, le temps est ultra précieux.
Ouais.
C'est l'enjeu. Du coup,
ouais.
Au début, on faisait des réunions de 2 heures, c'était trop long. Du coup, après, on a coupé à 1 heure. Mm. Ça nous forçait aussi à être un petit peu
efficace.
Ouais. Mais c'était royal. Là, maintenant, on a un petit peu ralenti le rythme parce que du coup, on a un rythme de développement qui est un petit peu plus long avec les productions et autres. Donc, on fait ça tous les 4 mois, 6 mois. Au début, on faisait ça tous les 2 mois. Et ça nous a vraiment, vraiment, vraiment aidé.
Ouais.
Et bah, je pense que pour des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, savoir bien s'entourer, c'est ultra primordial.
Mm.
Bien s'entourer autant avec son associé, enfin trouver une personne avec qui on a envie d'entreprendre, à part si on veut entreprendre tout seul. Mais derrière, avoir des conseils extérieurs, ça fait gagner du temps. Le temps, c'est ultra précieux parce que tu peux te casser le nez sur des choses ultra chronophages alors qu'en fait, tu passes un coup de fil. La personne en 10 minutes, elle t'éclaire mais toutes les lumières à tous les étages, quoi.
Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques insights comme ça que t'as en tête ou t'as particulièrement été aidé qui pourrait peut-être
un truc, mais avec le recul, ça me semble bête et c'est du bon sens. Tu vois, c'est genre du coup on travaillait avec des partenaires en Inde parce que du coup je travaillais sur place. Après je suis rentré en France et là ça nous a sauté aux yeux. On s'est dit mais Notre communauté, nos clients, ils sont en France. Aujourd'hui, on fait 95% de notre chiffre d'affaires en France. Et on s'est dit, mais ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'on veut préserver l'environnement, mais donc on fait des trucs recyclés, c'est cool. Mais pourquoi est-ce qu'on les fait en Inde et on les vend en France? Donc on s'est dit, non, ce qu'il faut, c'est que il faut que la production soit très proche de la consommation. Donc on s'est dit, pas de problème pour faire en Inde. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec travailler des ateliers indiens, si c'est bien fait et tout.
Ouais.
En fait, il faudrait qu'on vende en Inde ou dans des pays limitrophes. Du coup, on s'est dit, là, on va en France, il faut qu'on fasse en France. Du coup, on a tout rapatrié en France. Évidemment, le coût de la main-d'œuvre en France n'est pas le même qu'en Inde. Du coup, là, on était hyper gênés parce qu'avec Opal, le but du jeu, c'est quand même d'avoir le plus bel impact possible. Et je pense que c'est quand même intimement lié à un effet volume. Parce qu'on veut que ça touche le maximum de personnes, on veut recycler le maximum de matière, on veut donner le maximum d'argent à des associations. Donc, il y a un truc volume. Et on sait que quand on augmente le prix, souvent, le volume prend un coup.
Mmh.
Et du coup, on était ultra tracassés parce qu'on était là, mais on peut plus vendre nos t-shirts au même prix, nos produits au même prix, c'est pas possible. Et on était là, comment est-ce qu'on va justifier cette hausse de prix? Et en fait, du coup, on a fait un conseil des sages, et Thomas Ries de 1083 nous a gentiment dit, mais en fait, vous n'augmentez pas les prix, vous faites juste des autres produits, c'est juste des autres produits que vous allez vendre. Parce que là, avant vous vendiez des t-shirts recyclés fabriqués en Inde, maintenant vous allez vendre des t-shirts recyclés fabriqués en France. C'est pas du coup les mêmes produits et vous augmentez les prix. Parce que ça, en effet, c'est pas dans notre ADN. C'est juste que vous faites fondamentalement des produits différents. Et après coup, je suis là, ben oui, en fait, c'est normal. Du coup, il n'y a pas de problème. Donc on s'est dit, ok, on va justifier ça, on va expliquer ça. On a augmenté nos prix et il s'est rien passé. Et en fait, on n'a pas augmenté nos prix. C'est juste qu'on a changé
produits.
Tous nos produits. On a changé nos chaînes d'approvisionnement. On est passé de recycler fabriqué en Inde à recycler fabriqué en France. Du coup, le t-shirt avant il coûtait 35€, maintenant il coûte 45€. Il y a pas eu, il s'est rien passé en termes de volume, il s'est rien passé.
Bah, je pense qu'en même temps, quand c'est le message encore une fois qui parle, il y a un attachement à la marque qui est supérieur, tu vois. C'est pas juste, on n'achetait pas, je pense, juste pour le design vos t-shirts. Ouais. C'était pour l'univers, et donc c'est si en plus vous avez dit que maintenant c'est produit en France,
ouais.
Les personnes qui achetaient, ça m'étonne pas que le volume n'ait pas baissé, parce que ils vont pas se dire bah non, finalement eux ils abusent, enfin tu vois.
Et oui, mais c'est quand même une corde sensible. On sait que le prix,
oui.
c'est
la première raison, non, d'achat.
Je pense que enfin le prix, l'esthétique, tu vois, genre
ouais.
Comme je te disais tout à l'heure, tu peux mettre toutes les valeurs dans un produit, genre si s'il plaît pas ou s'il est trop cher, ben ce sera un frein. Et nous on court pas à l'économie, on cherche pas à faire des économies, je vais te dire bête et méchante,
ouais.
Par contre, si on arrive à faire des économies intelligentes sur justement si on arrive à réduire le transport, si on arrive à optimiser les productions, limiter les chutes et tout ça, on va chercher à faire ces économies là,
ouais.
Mais tu vois, on va pas chercher à négocier les prix sur je sais pas les salaires, les trucs, ça fait pas de sens, quoi, en fait.
Et votre conseil des sages, est-ce que vous... ça me fait rire, en plus, le nom, ça fait hyper... je sais pas, je pense à Astérix et Obélix, ils sont là, bon, allez, venez, on se rassemble. Est-ce que vous rassembliez les 7, si vous
êtes venus,
ou c'était un par un vous?
Non, arriviez... justement, le budget, c'était d'avoir les 7 personnes en même temps.
Est-ce qu'on va nous voir, tous les deux?
Sinon, je peux me décaler. Ouais, je vais faire du placement de produit.
Tu peux, hein, c'est quand même un peu le but aussi. Attends. Ou alors.
Je vais mettre plus en bout de
table. Peut-être, au pire, je me mets là juste pendant que je filme. Hein.
Ouais.
C'est pas grave,
comme tu veux.
Hop.
Tu veux que je regarde la caméra?
Ah non, t'inquiète.
De toi.
Ouais, enfin, fais comme si la caméra était pas là. C'est...
Ok.
Ça fera plus naturel. C'est, okay. Ça sera en accéléré de toute façon, je pense. Est-ce que juste elle est droite? Je vais la mettre un peu plus droite.
Je pense que c'est un tout petit peu penché, ouais. Vers la gauche.
Ouais. Là, ça me paraît pas mal.
Je pense que tourner un peu vers toi.
Ah,
c'est
oui.
Du
ah oui, t'as raison, je suis là-bas.
Je pense, ouais.
Attends, sinon,
je pense, je sais pas.
Ouais, attends, je vais remettre un peu vers toi.
Ouais, regarde.
T'as le bras long, ça va être pratique. Parfait. Je peux rajouter cadreur maintenant.
Cadreur chez Opal.
Bon, alors attends, je vais te reposer la question pour le conseil des sages, comme ça je ferai un cut.
Ouais.
Et du coup, je me demandais, votre conseil des sages, est-ce que vous faisiez en sorte de rassembler les 7 mentors, on va dire, au même moment,
ouais.
Ou c'était un par un, vous les rencontriez
On tenait à ce que les 7 soient présents, donc parfois, bien évidemment, suivant l'emploi du temps de chacun, on n'était pas là. Parce qu'on s'est dit tout simplement aussi, pour eux, c'est chouette. Parce qu'il y avait des gens du textile, il y avait des gens juste de l'environnement, il y avait des gens de l'incubateur Make Sense qui nous accompagnaient.
Ouais.
Et en fait, il y avait, parmi ces 7 personnes-là, il y avait des gens qui venaient du textile, comme il y avait Guillaume Gibaud de Sleep.
Je l'ai vu sur le podcast.
Oui, bon.
Il est très cool.
Et oui. Et en fait, chacun avait un petit peu son mot à dire. Et ce que je pense, c'est que dans ce petit milieu-là, on a tous un petit peu la même finalité, de faire les choses bien, de laisser un monde meilleur en quelque sorte. Et les voix, elles sont multiples et elles sont différentes. Et quand je vois par exemple Guillaume du Slip, qui a commencé avec le Made in France, qui se pose des questions sur les matières, trop bien. Nous, on a eu le truc totalement inverse, en se concentrant sur les matières. Et ensuite, on s'est dit, ah mais fabriquer en Inde, vendre en France, peut-être que ça s'est amélioré. Et du coup, on a rapatrié la prod en France. Et que ce soit nous et envers eux envers nous, et aussi eux entre eux, Mais en fait, c'était génial parce qu'il y avait des échanges entre Opal, mais aussi entre tous les gens de ce conseil des sages.
C'est fou comme je pense ça casse peut-être des a priori qu'on peut avoir. Où, enfin, moi, c'est vrai que j'aurais pensé qu'il y avait une espèce de concurrence, tu vois, de compétition, surtout en France où les gens veulent pas trop se dire les choses. Et au final, je pense que c'est aussi parce que tu as réussi à trouver des gens bienveillants. Mais en fait, la plupart, au final, des entrepreneurs doivent, j'avoue, toujours être partants pour apprendre, quoi, tu vois.
Ouais, il faut. Franchement, je me dis, tu vois, chez Opal, on se dit l'importance des enjeux et un petit peu l'urgence qu'il y a derrière. En fait, ça dépasse toute question de concurrence. Et si demain, il faut partager tous nos savoirs, tous nos connaissances, mais on le fait avec grand plaisir. On va juste s'assurer que derrière, la personne soit bienveillante, évidemment. Ouais. Mais je pense qu'à partir du moment où tu travailles dans ce
milieu-là,
bon, il y a quand même des filtres qui s'appliquent. Et les opportunistes, je pense qu'on peut vite les identifier. Du coup, on s'est toujours dit, mais il faut aider, il faut qu'on arrive à se renvoyer la balle, à partager nos échecs, nos erreurs, tout ce qu'on apprend et dire, ben voilà, ça chez nous, ça marche très très bien, je vous le dis. Après, peut-être que chez vous, ça marchera pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes communautés, on n'a pas tous le même message, mais il faut se faire grandir mutuellement parce que, ben, la France, déjà, c'est peanuts dans le monde, le marché, il reste immense, et je veux dire, même au sein de ce marché-là, enfin. Le slip français est aussi connu, soit le slip français ça reste petit, 1083 ça reste petit, et Opal j'en parle même pas, c'est minuscule. Donc on a juste tout intérêt à travailler ensemble, et peut-être le jour où le marché français sera saturé, ben il y a l'Europe, il y a le monde, enfin il y a mille choses à faire.
C'est vrai.
Tout le monde a un message différent, tout le monde a une manière de faire différente, un style de produit différent, et en fait c'est tant mieux, plus on sera nombreux à grandir ensemble, en fait c'est-à-dire que le client, le consommateur, enfin, comme nous, on est tous, quoi. On aura plus de choix. Et si toi, demain, tu te dis, ben, je veux me mettre à la mode éthique, en fait, c'est génial que tu aies une diversité d'offres et que peut-être tu vas choisir cette marque parce que c'est fait en France, cette marque parce que c'est fait en matière naturelle, cette marque parce que ça prend soin des animaux, parce que c'est en recyclé, parce que comme ça, on aura tous une bonne raison au moins de passer à l'action. Et il n'y aura, je pense, jamais de marque parfaite. Mais ce qui est bien, c'est que chacun ait ses combats. Et que comme ça, tout le monde puisse adhérer au moins à un, voire à un, plusieurs.
Ouais, t'as raison. Bah, le jour où déjà il y aura ne serait-ce que le tiers de choix en mode éthique qui existe dans la mode fast fashion, ce sera déjà un grand pas. Et s'il y a déjà la place pour tout le monde dans la fast fashion, j'espère qu'il y en a encore plus pour la mode éthique.
Ouais.
Et là, tu parlais de ce qui marche, ce qui ne marche pas, est-ce que vous dites entre vous. Moi, je me demande, est-ce que c'est une espèce de rapport que vous faites constamment avec Mathieu de temps en temps? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est chargé de ça? Mais c'est vrai que je trouve que ça doit être difficile parfois, tu as peut-être d'avoir cette impression qu'il y a un truc qui pourrait marcher, mais il faut y penser. Est-ce que vous réfléchissez parfois à de nouvelles stratégies que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous faites des bilans un peu? Parce que c'est vrai que je trouve que ça peut être aussi un peu vertigineux, quoi, de se dire, on a essayé ça, mais il faut encore essayer ça. Enfin, tu vois, comment est-ce que vous procédez un peu
Les décisions, elles sont multiples. Et on prend des décisions, tu vois, genre sur les produits, sur l'équipe, sur les finances, sur... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui sont prises. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a une multitude de décisions qui sont prises et il faut, pour chacune, presque être capable de dire ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. Ce qu'on fait, c'est donc avec Mathieu, on passe déjà quand même pas mal de temps ensemble. Après, on fait des points trimestriels avec toute l'équipe où, justement, on va parler de tous les sujets. Et là, on demande à tout le monde de dire aussi en perso ce qui marche et ce qui marche pas. Et en fait, on se rend compte que c'est très corrélé entre ce qui se passe en interne et ce qui se passe en externe. Ce qui va dire ce qui marche ou ce qui marche pas, au final, c'est le client.
Ouais.
Et je pense que c'est là où on doit être ultra attentif, c'est par rapport au client, et qu'en fait, c'est eux qui vont faire que Opal va grandir ou Opal va se planter. Et en fait, on essaie d'être le maximum à l'écoute de nos clients. C'est pour ça qu'on essaie de les impliquer dans le développement des produits. On essaie de leur demander leur avis, de les solliciter. Parce que nous, il faut qu'on soit force de proposition. Mais au final, c'est le pouvoir du consommateur qui va dire là, ça me plaît, là, ça me plaît pas. Et quand, tu vois, par exemple, on a décidé de changer nos chaînes d'approvisionnement, de passer de l'Inde à la France, et qu'on a remarqué aucun changement malgré cette fausse hausse de prix, ben, ça envoie un message ultra fort. Ça nous dit... Il y a du répondant, la communauté, le client accepte que nous changeons nos produits, que nous changeons de chaîne d'appro pour faire du Made in France. Et là, on se dit, ça, ça marche. Dernièrement, un cas que je trouve énorme, c'est on a testé un emballage réutilisable qui s'appelle Repack. En gros, on envoie de la commande à notre client il reçoit sa commande, l'emballage il se replie, il est ultra résistant, il y a un petit scotch, et il peut le renvoyer gratuitement dans une boîte postale, ça va dans un centre où il est nettoyé, réparé, et il nous revient. Le service de manutention, ça coûte environ 3 euros. Du coup, on a demandé à nos clients, est-ce que vous serez prêts à payer 3 euros supplémentaires pour avoir ce packaging réutilisable qui, du coup, lutte contre un packaging, même s'il est recyclé ou fabriqué en France,
et jeté.
Ouais. Parce qu'on a tendance à se dire, quand je mets dans la poubelle, c'est fini, mais non, le parcours n'est quand même pas terminé. Mm. Et là, les gens nous disent, oui, donc on fait un questionnaire, etc. Donc on se dit, ok, l'étape d'après, c'est de le tester. Donc, quand on passe sa commande sur le panier, on peut tester. Donc, il y a une option normale qui coûte 0 euros, packaging en carton recyclé, mais à usage unique. Et ensuite, un truc 3 euros, emballage réutilisable. Et bien, le premier jour, on a eu presque 30% des commandes qui étaient avec un emballage réutilisable. Et je suis là, mais c'est génial parce que plus on est transparent, plus on explique, plus les gens ils s'approprient les enjeux, plus ils s'approprient le message.
Ouais.
Et en fait, les gens sont super intelligents. Et je pense que des fois, on a tendance à se dire « Non, mais ça, les gens, ils sont pas prêts. » Ou « Non. » Ben, faut demander, tester et on voit ce qui marche. Des fois, comme c'est à double sens, nous, au pain, on va proposer des choses. Autant ce projet-là, il n'aurait pas marché. Mais on n'aurait pas dit « Nos clients sont cons. » On se serait juste dit « Ah, peut-être qu'on s'y est mal pris. Peut-être qu'on a mal expliqué le message. » Parce qu'on est convaincu que quand on explique le message, les gens, ils comprennent, ils s'approprient les choses. Et chez Opal, on est tellement transparent, honnête, on vit Opal. Enfin, je veux dire, on veut faire les choses bien, qu'il n'y a aucun moment où on s'est dit « Ah là, c'est risqué, on va se planter ». Donc quand on se plante, c'est plus qu'on a mal expliqué les choses. Et ça, après, on essaie de le rattraper, quoi.
Vous êtes hyper humble. Tout le monde n'a pas cette mentalité. Et quel vecteur de communication vous utilisez, justement, pour sonder votre communauté et pour échanger avec eux?
Ouais. Là, nous, à date, on fait que de la distribution sur notre site, sur opal.com. Là, ça change, parce que du coup, on vient d'ouvrir des petits bureaux à Biarritz où on a une petite boutique. Donc, on va pouvoir faire l'expérience de la vente physique. Et justement, en fait, chez Opal, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses. Parce que du coup, on s'occupe de la conception, il n'y a que la production qui est externalisée, parce qu'on travaille avec plein d'ateliers en France et maintenant un petit peu au Portugal, parce qu'on est à Biarritz, c'est à côté. On fait le stockage et on s'occupe de l'expédition. Et en fait, ça nous permet de toucher plein de sujets, comme justement les emballages, le stockage. Il y a plein de sujets que les clients ne voient même pas, mais on se les approprie. Mm. Par exemple, on refuse tous les polybags, c'est les sacs plastiques dans lesquels les fabricants envoient les produits aux marques. En gros, tu reçois 1000 t-shirts, tu reçois 1000 sacs plastiques. Donc ça, on leur a dit, maintenant vous arrêtez, parce que nos stockages, il est propre, on n'a pas besoin de polybag, et on va s'arranger pour que ce soit sain, etc. Du coup, on a un champ d'action qui est ultra large. Et en fait, on faisait beaucoup, beaucoup de choses à plein d'étapes. Et on n'arrivait pas à le dire à nos clients. On était là, et quand les gens venaient nous voir, on leur expliquait, on disait, là, on fait ça, là, on fait ça. Et c'était là, mais vous êtes des malades, vous êtes des ouf, comment vous faites? Et on était là, ah oui, c'est vrai. Et en fait, on n'en parle pas. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on arrive à dire un petit peu tout ce qu'on fait. Donc sur le site, on a mis un truc qui s'appelle « Produits à venir ». Donc déjà, on explique un petit peu tous les produits sur lesquels on travaille. Donc là, ce soit sur une robe, une chemise, un pull. Et on a mis aussi un truc qui s'appelle « Projet à venir ». Et c'est un petit peu tous les projets en cours de réflexion. Même là, on ne met pas tout, parce qu'il y en a plein. Mm. Mais par contre, on va mettre des projets en ligne, où il va y avoir un grand article qui va expliquer un petit peu toute la démarche. Et on va être transparent sur... ce que nous, on comprend sur le projet. Et derrière, on va mettre un questionnaire en disant, voilà ce que nous, on pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, là, par exemple, sur le packaging réutilisable, on disait, voilà, nous, on avait fait le choix d'utiliser des packaging en carton recyclé. Déjà, on avait adapté toutes les tailles des packaging pour ne pas transporter de l'air.
Ouais.
Maintenant, on pense qu'une étape intéressante, ce serait le truc réutilisable. Il y a des courbes d'impact, etc. Nous, on pense que c'est chouette. Petit questionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool? Est-ce que vous êtes prêt à payer? Oui, non? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire moite-moite avec Opal? Et là, on s'est rendu compte que les gens étaient ultra engagés. Il y a des projets sur lesquels on se dit faut tenter, on se dit faut tenter plus tard, ou on se dit là, c'est vraiment pas la priorité.
C'est vrai que je regardais votre site et je l'avais déjà vu, je l'avais trouvé super. Vous êtes vraiment transparent en fait de A à Z et je trouve que ça manque beaucoup. Aujourd'hui, dans l'univers des marques, enfin surtout, encore une fois, dans les marques de prêt-à-porter, où ils vont capitaliser sur le rêve, ouais. le mais en fait c'est marrant, moi mon seul point de comparaison c'est un peu les réseaux sociaux parce que c'est là-dessus où je suis principalement ouais. présente et c'est personnellement quelque chose que j'essaye vraiment de faire, d'être beaucoup transparente. On a créé un mouvement avec une amie hashtag on veut du vrai ouais. pour justement beaucoup plus de transparence sur les réseaux parce que ça me fait un peu penser justement aux comptes, mais pareil aux marques quoi, qui vont juste vendre du rêve et du lécher et du retoucher ouais. alors que aujourd'hui je pense que les gens veulent du vrai quoi. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé comme ça. Et c'est aussi vrai sur les réseaux ouais. pour les personnes qui l'utilisent que pour les marques. Et c'est d'ailleurs aussi le message qu'on avait donné dès le départ. Enfin, nous, on aimerait, avec ce hashtag, mettre des marques en avant okay. qui ont des démarches honorables, enfin, tu vois, qui ne retouchent pas leurs photos,
ouais, ouais.
Qui représentent la diversité des corps et des ethnies. Et Dieu sait que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et qui aussi se soucient de l'impact environnemental parce que ouais. je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent... enfin acheter, enfin être consommateur, tu vois, enfin
ouais, ouais,
vraiment
mon
côté, j'aimerais bien savoir à qui je donne de l'argent et j'aimerais bien que ce soit pour la bonne cause parce que
carrément.
Je pense qu'une fois que t'as cette prise de conscience, moi maintenant je te jure, je suis pas encore passée à 100% mode éthique, mais j'essaye là, je me suis fixée à la rentrée comme objectif de faire 50-50 au okay. moins, et même quand j'achète encore de la fast fashion, j'ai un petit truc au cœur parce que je suis là genre ah. Louise, tu ne peux plus faire semblant, tu sais qui te donne de l'argent
allez-y,
et ça,
prenez
et ça me fait, je te jure, ouais. et mon copain il est encore plus radical, lui il adore lire et il refuse d'acheter des livres sur Amazon
okay.
alors que c'est quand même devenu super pratique. Moi je sais que aussi j'aime ouais. beaucoup lire et aujourd'hui c'est quand même compliqué, moi soit j'ai la bibliothèque de Sciences Po, soit ouais, je le compte ouais. sur Amazon et lui ne veut pas parce que c'est vrai comme tu dis ça fait des déchets à usage unique mais à ouais. outrance quoi.
Carrément.
Quand on connaît les volumes d'Amazon j'essaie de pas être trop déprimé non plus par ça et ouais, de voir ouais. le positif mais bon c'est je trouve ça cool qu'aujourd'hui en tout cas on se pose la question tu vois.
Grave. Et c'est bien que en se posant la question du coup t'enclenches je pense un sort de mécanisme mm. qui ça va peut-être pas se faire en 2 semaines tu vois mais peut-être en 2 mois et du coup je suis curieux de voir où t'en seras d'ici 6 mois non
sur ouais carrément. On est optimiste
ouais.
et comme on arrive vers la fin du podcast mais t'as vu hein, ça passe vite hein.
ça
fait quasiment
vite.
Une heure hein.
C'est vrai.
Ouais.
Oh my god.
Je voulais peut-être arriver à des questions plus sur toi ton rythme de vie parce que bon on sait quand même être entrepreneur c'est
ouais.
très très prenant. Est-ce que tu arrives à poser des limites, est-ce que
ouais.
tu réussissais au début, enfin comment aujourd'hui par exemple à quoi ressemble une de tes journées et plus globalement une de tes semaines
ouais.
est-ce que voilà tu fais comme ça des séparations ou tu fais plus au feeling en fonction des périodes.
C'est encore une fois une très bonne question et je pense et ça amène pour moi beaucoup de sujets. En gros, il y a genre comment moi personnellement je gère mon temps et il y a aussi comment on gère notre temps chez Opal.
Ouais.
Et en fait, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'il y a cette effervescence et c'est vrai que je te le cache pas, la première année avec Mathieu, du coup, on ne comptait vraiment pas nos heures. Mmh. Et aujourd'hui encore, on ne compte pas nos heures parce que Opal, c'est plus qu'un métier, tu vois, genre en fait, c'est quelque chose qui nous anime
mmh.
et on est capable de tout connecter. Je sais pas, demain, je vais rencontrer une personne qui est complètement éloignée de la mode éthique, mais il y aura sûrement peut-être un parallèle à faire parce que c'est quelque chose qui nous touche et qui nous anime. Donc sur le travail, c'est vrai qu'on était à fond, à bloc en première année parce qu'on s'était dit il faut se mettre une sorte de date de mort en se disant si jamais Opal ne le prend pas à partir de ce moment-là, il va falloir se poser des questions.
Mmh.
Du coup, il y a cet enjeu de un peu de survie qui est inévitable et c'est chouette parce que c'est ultra excitant. À partir du moment où on commence à se dire ok, il y a quelque chose qui se prend, on passe je pense de la période un petit peu expérience, survie à un truc ok, comment on pérennise un petit peu le truc, il faut que ce soit durable quoi. Et du coup là c'est un enjeu d'équipe et avec Mathieu au début voilà, on travaillait à distance, on se faisait une confiance absolue et à partir du moment où on a fait rentrer des gens, il a fallu aussi organiser l'équipe. Et qui dit équipe dit responsabilité, on délègue du travail, on se partage les tâches. Et en fait, là, on a fait c'était il y a un an à peu près, donc je pense un an après la création d'Opal à la louche, on s'est dit, mais nous, on se fait une confiance extrême, on gère nos journées comme on veut, on gère nos semaines comme on veut, on gère notre année comme on veut, parce qu'on est grand, en fait, et qu'on se fait confiance. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on fait ça à l'échelle d'une entreprise ? Et du coup, chez Opal, là, on s'est dit, il faut que tout le monde puisse gérer ses journées comme la personne l'entend. Puisse gérer sa semaine, son mois, son année. Et il y a plein de... Et en fait, c'est que du bon sens, encore une fois. Et il y a un livre qui est génial qui s'appelle « Liberté et compagnie », rédigé par Isaac Goetz, où il prend des exemples d'entreprises et il va énumérer plein de petites choses qui sont faites. qui sont basées juste sur la confiance que tu vas accorder à tes employés, la confiance que tu as créée autour de ton équipe, et elle dit ben, la liberté rime avec responsabilité. Du coup, avec Opal, on est une marque jeune, on est une équipe jeune, on est à des bureaux à 50 mètres de l'océan, on aime surfer, on aime aller courir, on aime aller nager, faire n'importe quoi. Du coup, on peut pas faire 9h-18h. Mm. On sait le faire. Quand il faut le faire, on sait faire, on peut le faire. Mais des fois, il y a des vagues, du coup, il faut aller surfer. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que tout soit bien fait? Et on s'est dit, ben, c'est simple. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règle. À condition que le travail soit bien fait. Donc, on ne compte pas les journées off. Parce qu'on se dit, il n'y a rien de plus frustrant de devoir poser une demi-journée si je dois aller chercher ma mère, je ne sais pas, à la gare. Il n'y a rien de plus frustrant de poser une demi-journée si je veux partir 3 heures avant pour prendre un train pour aller voir mes copains, pour aller voir ma famille. Qu'on s'est dit, c'est juste quelque chose qui nous ce serait insupportable. Qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on construit ça avec toute l'équipe? Donc ça, c'était un gros enjeu. Après, si la question, c'est genre, qu'est-ce que je fais de mes journées? On passe beaucoup de temps à... Enfin, moi, du coup, je fais un petit peu le lien entre la prod et la com pour que tout soit ultra bien rythmé, vu qu'on a des productions qui sont un petit peu complexes, vu qu'on connaît tous les intervenants. Du coup, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Heureusement, je ne travaille pas tout seul sur le sujet, parce que sinon, ce serait trop complexe. Et après, niveau com, je faisais le lien justement en se disant bah, comment est-ce qu'on prévient notre communauté qu'il va y avoir des nouveaux produits, comment est-ce qu'on implique notre communauté sur le développement des produits, là où on peut les impliquer, et s'assurer que le timing soit bien réglé, parce que du coup, on a beaucoup de messages à faire passer, beaucoup de produits à présenter et autres. Donc je m'occupe de ça et de rencontrer des gens, parler de Opal et réfléchir à quelques projets futurs, parce que c'est bien d'avoir quelques coups d'avance sur la stratégie, même si des fois on se rend compte que ben, on est une petite boîte, on n'a pas d'inertie, et des fois on se fait des projets à 6 mois, 1 an, et en fait on se fait rattraper par l'opérationnel. Et il faut travailler sur le mail qui doit partir dans l'heure au fabricant. Donc c'est un mix entre... la stratégie un petit peu long terme, moyen terme et le court terme, et chacun au sein de l'équipe, on a des temporalités un petit peu différentes, mais des fois quand faut y aller et on se met sur le truc maintenant.
Trop cool. J'ai deux petites dernières questions pour toi.
Yes.
La première, j'ai jamais posé, mais je sais pas pourquoi elle m'est venue à l'esprit et j'ai envie de te la poser. C'est si jamais tu devais offrir quelque chose à quelqu'un demain, ce serait quoi?
Ok. Si je devais offrir quelque chose à quelqu'un, je lis beaucoup de livres, j'aime bien, et pour moi c'est très chouette, c'est un beau cadeau. Je pense que j'offrirais un livre, ça dépend quel livre à quelle personne. Mais comme je te disais, genre, j'aime beaucoup lire parce que ça offre des moments un petit peu privilégiés, et j'ai l'impression que après une lecture il y a toujours des enseignements à tirer.
C'est vrai.
Et j'ai une manie, je n'ai pas de livre sur moi, mais je mets des post-it sur mes livres, des tout petits post-it. Et je lis tous les livres 2 fois. Je le fais une première lecture, je mets un post-it sur toutes les phrases ou les sujets qui m'intéressent. Une fois que je l'ai fini, je le mets de côté. 2-3 mois après, je le reprends, je mate tous les post-it et je suis là, ah yes, ok. Et en fait, c'est marrant parce que des fois, il y a des choses qui vont me faire écho. Je me dis, ça, je me rappelle très bien pourquoi j'ai mis le post-it. Et je me rappelle que j'interprétais ça comme ça. Et en fait, 2-3 mois après ou 6 mois après, c'est pas la même interprétation. Du coup, je trouve ça assez marrant.
C'est vrai.
Parce que quand tu lis un livre, tu vas avoir des choses qui vont te sauter un petit peu au visage, genre waouh, c'est énorme. Tu le relis, tu vas être là, ah, c'est un peu moins bien. Ou tu vas dire, ah ouais, mais c'est vraiment bien plus important que ce que je pensais. Du coup, j'aime beaucoup les livres. Et je vois que tu lis des livres aussi.
Ouais. Lequel t'offrirais à nos auditeurs, à nos auditrices, si jamais tu devais en choisir un?
C'est une question super dure.
Ou le dernier qui t'a particulièrement plu, comme tu veux.
Un des livres mais que j'ai adoré, c'est le livre de Yvon Chouinard, de fondateur de Patagonia.
S'appelle
Homme d'affaires malgré moi en français, ou Let My People Go Surfing en anglais. Pour moi, c'était une claque parce que j'y connaissais rien en entrepreneuriat. J'y connaissais rien justement en liberté d'entreprendre, de travail. Et je pense qu'il évoque, c'est pas parfait encore une fois, mais il évoque plein de sujets super intéressants, et pour des néophytes. C'est cool de lire ce genre de livre là parce que ça ouvre plein de questions.
Ok, trop cool. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Ok, et c'est des questions super dures.
Ouais.
Prendre le pouvoir de sa vie,
c'est une réponse plutôt instinctive, tu vois.
Ouais, ouais. Directement, le premier mot qui me vient, tu vois, c'est liberté. Et c'est de se dire comment je serai toujours libre de mes choix, tant sur mon temps, puisque c'est la chose pour moi la plus précieuse. Donc comment j'organise mes journées librement, et après le kiff, c'est organiser ses journées comme tu veux, faire des choses qui te plaisent avec des gens que tu apprécies. Bon, voilà, c'est royal. Et quand on arrive à aligner toutes les planètes de ça, je pense que tu arrives à prendre le pouvoir de ta vie.
Trop cool. Ben, merci beaucoup Clément d'être venu sur InPower. C'était,
merci à
c'était
toi.
Hyper cool. Où est-ce qu'on redirige ceux qui nous écoutent s'ils veulent en savoir plus sur toi ou sur Opal?
Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur opal.com,
ouais.
H-O-P avec deux A-L.
Ouais.
Et ensuite, s'il y a des questions, j'ai un mail, c'est clément@opal.com.
Ok, bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast et peut-être cool. aussi avec votre Insta si les gens
ouais,
veulent aller voir.
Ouais, carrément.
Trop cool. On fait ça. Bah écoute, merci beaucoup et à très
merci
vite.
Merci à toi. À très vite.
Merci beaucoup de vous être rejoint à nous pour cette conversation avec Clément. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @opal, H-O-P-A-A-L, et @mybetter-self pour que l'on puisse vous voir et vous riposter. N'oubliez pas également de vous abonner au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes et à nous suivre sur Instagram @inpowerpodcast où je vous partage des conseils pratiques pour vous aider à prendre le pouvoir de votre vie au quotidien. Je vous remercie sincèrement et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.